Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on remonte le temps avec notre invité, le paléontologue Yves Coppens. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bienvenue. Vous êtes l'un des rédacteurs en chef exceptionnels du numéro spécial 70 ans du magazine Science et Avenir,
oui.
Qui recense 70 découvertes qui ont changé la vie. Et dans ce magazine, vous évoquez notamment tout ce que les technologies modernes apportent à notre connaissance du passé. Et alors, on est en plein dans l'actualité avec cette découverte dans la pyramide de Khéops, cette cavité d'une trentaine de mètres de long. Ça vous surprend pas qu'on découvre encore des choses comme ça dans une pyramide autant observée ?
Non, ça m'intéresse, ça me passionne, mais ça ne me surprend pas, non.
Quels moyens on utilise ?
On n'est pas au bout de nos peines. Hein. on utilise des méthodes variées, hein, notamment, en l'occurrence, là, de la tomographie géoélectrique.
Ça veut dire quoi, ça ?
Ça veut dire que sans rentrer dedans, de manière non-invasive, on apprend la structure d'un mur, en l'occurrence d'une tombe. Et moi, j'ai fait ça en Chine, et j'ai fait ça sur des terrains naturels. C'est-à-dire que j'ai utilisé des quantités de méthodes avec des ingénieurs d'EDF et puis aussi des ponts des chaussées. Et par des méthodes qu'on appelle microgravimétriques, radars électriques, il y en a beaucoup, électromagnétiques, on sonde le terrain sans y toucher, en quelque sorte. Et le retour des ondes indique s'il y a un trou ou pas de trou, si c'est dense ou pas dense, à quel endroit ça change un petit peu de physionomie. Et ensuite, on peut faire les sondages adéquats.
Restez avec nous sur RTL, on est bouche bée, on va vous présenter vos ancêtres rencontrés les premiers humains. Ça vous
aussi,
dit
hein.
Allez, à tout de suite.
Vous écoutez RTL. RTL.
Que notre peau soit blanche, noire ou cuivrée, nous descendons tous d'une seule et même famille.
La curiosité est un vilain défaut.
10 millions d'années, c'est 500 000 générations.
Je suis un homme de Cro-Magnon.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis un singe ou un poisson.
Ce savoir nous permet de remonter jusqu'à eux, de fouiller notre passé et d'y trouver leurs traces.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Et avec Dominique Leroux, directrice de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Et le paléontologue Yves Coppens, qui est l'un des rédacteurs en chef exceptionnels donc de ce numéro 70e anniversaire, les 70 découvertes qui ont changé la vie. Est-ce que vous pouvez en choisir une chacun, tiens Dominique Leroux, je commence avec vous.
Alors c'est vraiment difficile, mais quand même, 1969, pas seulement année érotique, mais le pied de l'homme sur la Lune.
Année lunaire.
Oui. Alors okay. Là, oui. C'est une avancée. C'est pas... Est-ce que c'est une découverte ? Ça a été permis
la Lune.
Grâce à des découvertes. Mais on a découvert la Terre.
Eh oui, non, on découvre la Terre.
Pour la première fois, ouais. La Terre de loin.
Bien sûr.
Un seul blue dot, comme disait Carl Sagan, le célèbre astrophysicien américain.
Un point bleu.
Le petit point bleu. Mm. Hein, c'est notre vaisseau spatial à nous.
Et pour vous, Yves Coppens, une
en dehors de la paléontologie.
Oui, parenthèse, Carl Sagan, c'était un très bon copain. Donc, je continue.
Oui.
Moi, en dehors de la paléontologie.
Oui, c'est possible.
Ah oui, l'électronique et le numérique, ça c'est sûr.
La révolution qu'on vit aujourd'hui.
Ah, vous rendez compte, oui. Mm. Vous rendez compte que l'on peut faire des calculs comme on ne les aurait pas fait en quelques secondes, et nous on les aurait fait en quelques centaines d'années. Et puis, du même coup, on peut communiquer d'ici, par exemple, à travers le monde. Ça sonne, et c'est le Mexique qui appelle. On peut renvoyer en Argentine, je sais pas quoi, moi. Sur la Lune, bientôt, c'est formidable.
Et c'est vrai que c'était pas le cas en 1947, quand sort pour la première fois Science et Avenir, qu'on peut découvrir d'ailleurs, puisque vous nous offrez un fac-similé de ce premier numéro. Quand ce premier numéro sort, qu'est-ce qu'on sait des premiers humains, Yves Coppens ?
En 1947, on connaissait un certain nombre de choses, mais on ne savait pas les dater. On connaissait les Australopithèques, mais on ne savait pas trop ce que c'était, des préhumains, mais c'était un peu vague. On connaissait l'homme de Pékin, l'homme de Java, l'homme de Néandertal, mais tout ça, c'était un petit peu fouillis. Mais par contre, on connaissait l'Oréopithèque, qu'on connaît aussi aujourd'hui, mais on en faisait un petit peu l'origine de l'homme, un petit peu de manière excessif parce qu'il était européen.
Il venait d'où ?
Il venait d'Italie, du nord de l'Italie, de Toscane.
Ça nous arrangeait bien que l'origine de l'homme soit à cet endroit-là, c'est ça ?
Moi, pas du tout, mais les paléontologues de l'époque, oui, sans le dire, il faut être scientifique quand même. Donc, on est froid.
Et depuis, on a chaque décennie a apporté de nouvelles connaissances en la matière. Aujourd'hui, on sait quoi ? Le berceau de l'humanité, il est situé où, Yves Coppens ?
Alors, le berceau de l'humanité, moi, je l'ai appelé dans Sciences et Avenir le berceau en rond ou le berceau concentrique, parce que il occupe toute la partie de savane qui est concentrique à la forêt équatoriale africaine. Autrement dit, le berceau est tropical, africain, et il tourne autour. Il part du Tchad, il passe pour le moment, par l'Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Malawi, l'Afrique du Sud. Voilà, j'ai fini.
Et ça, on le sait depuis combien de temps ? Depuis une quinzaine d'années, c'est ça ?
Le Tchad, depuis 2000 et quelque chose, 2002 en l'occurrence, et les autres depuis le début du XXe siècle.
Hein. Quand vous découvrez Lucie, c'est le milieu des années 70, à ce moment-là, on pense que le berceau de l'humanité, il est plutôt en Afrique de l'Est, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que, encore une fois, la science ne se pose pas de questions. Hein. Elle reçoit un certain nombre d'informations, ouais. Elle juge en fonction de ces informations. Et puis elle dit, tout a l'air de se passer comme si c'était comme ça, et puis quand c'est pas comme ça, ben on change, et puis c'est tout. Oui.
Et on avance. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques, notamment autour de l'ADN. Mais comment peut-on trouver de l'ADN dans un squelette, ou un tout petit morceau de squelette, vieux de plusieurs millions d'années ? Réponse dans un instant sur RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur RTL avec les invités de l'heure du crime. Notre mission, expliquer, décrypter, comprendre les mystères des grandes affaires criminelles qui font la une de l'actualité, avec les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les experts et les archives sonores de la rédaction.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Denis Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
La curiosité, c'est le nouveau rendez-vous des après-midi d'RTL et c'est une grande qualité de nos invités, le paléontologue Yves Coppens et Dominique Leglu, directrice de la rédaction de Sciences et Avenir. Alors avec vous, on dévoile comment la science a fait progresser d'une façon absolument spectaculaire la connaissance de nos origines, avec notamment une nouvelle discipline. Elle est apparue il y a bientôt 40 ans, elle s'appelle la paléogénétique. C'est quoi, Dominique Leglu ?
Il faut décomposer le mot. Hein. Donc, on cherche les gènes. Et paléo, c'est les très très vieux gènes. Donc, on cherche des bons endroits, des bons ossements,
oui.
Où il serait resté un petit quelque chose.
Mais les chercher, c'est bien, mais il faut les trouver après. Ben voilà, comment on trouve l'ADN dans ces os ?
Il faut qu'il y ait eu une très bonne conservation. Et en plus, ça arrive même dans des très très vieilles grottes, quand ça s'est retrouvé. Par hasard et pour notre connaissance de maintenant, dans des terrains qui ne les ont pas trop altérés.
Alors, ça veut dire qu'un squelette enfermé dans une grotte, par exemple
Tout dépend de l'atmosphère de cette grotte. Tout dépend si c'était très sec et que tout a disparu parce que tout est tombé en poussière, ou bien si c'était très humide et auquel cas peut-être. Vous savez, par exemple, dans les tourbières, ou bien dans des sols adéquats, des sols pas trop acides, des sols qui n'ont pas tout détruit. Oui, maintenant, on se dit que même dans les grottes extrêmement anciennes, sur le sol, il faut faire attention, il ne faut pas l'altérer, il ne faut pas aller marcher dessus et le gratouiller dans tous les sens tout de suite. Il faut être très précautionneux, parce que oui, il peut y avoir des très, très, très vieux restes.
Yves Coppens, il suffit d'un tout petit morceau d'ossement pour trouver de l'ADN à l'intérieur ?
Ben absolument, oui. Ben, vous savez, cette molécule d'ADN, elle est très fragile. Si bien que pour le moment, au-delà de 500 000 ans, 1 million d'années au grand maximum, on trouve plus rien, quoi.
D'accord.
Il a été question à un moment donné qu'on ait trouvé un bout d'ADN sur un dinosaure, et tyrannosaure d'ailleurs. Et en fait, c'est un peu douteux parce qu'il suffit de manipuler soi-même les ossements pour laisser son propre ADN dessus, quoi. Et donc, il y a des travaux considérables. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que la paléontologie, ma discipline, était tout à fait persuadée d'être la seule à avoir accès au passé. Et puis voilà que la paléobiologie, la paléogénie moléculaire, la paléogénétique arrivent en compétition, nous apprennent bien des choses, bien sûr. C'est pas une vraie compétition.
Et donc, on disait depuis tout à l'heure, c'est quoi ? C'est presque un gigantesque arbre généalogique qu'on est en train de recréer.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les paléontologues, depuis deux siècles, ont tenté, en faisant des mesures, en étudiant la morphologie, de comparer les êtres et de faire des filiations.
Ouais.
Autrement dit, là, l'arbre généalogique dont vous parlez. Et aujourd'hui, avec la génétique, lorsqu'elle est accessible, ça va confirmer ou infirmer ce que l'on a dit, et en tout cas apporter beaucoup d'informations sur l'arbre généalogique et aussi sur les migrations, bien sûr.
Est-ce que cette discipline, la paléo génétique, permet d'en savoir plus sur celui qu'on a regardé pendant longtemps de haut, Néandertal? Est-ce qu'on apprend un peu plus sur lui? Qu'est-ce qu'on apprend?
Ce qu'on apprend, et donc il y a, attention, il y a Yves Coppens juste à côté.
Faites attention à ce que vous dites, Dominique Leglu.
c'est que nous, les sapiens, nous sommes métissés avec Néandertal. Autrement dit, Sapiens, qui un jour est sorti d'Afrique, enfin peut-être pas une seule fois, il est peut-être sorti à plusieurs reprises, mais en tout cas la dernière fois, hein, il s'est métissé avec celui qui était déjà là, c'est-à-dire Néandertal. Et les cartes que vous voyez, pas du monde entier, mais quand même une bonne partie, hein, on va dire de l'Atlantique jusqu'à l'autre côté, hein, vers l'Asie, vous voyez qu'il y a différents pourcentages dans ce métissage. Il y en a d'ailleurs plus en Asie de Néandertal. Nous en avons 2% environ.
En Europe.
Ce que je voulais dire aussi, pour compléter ce que disait Yves, c'est que, rappelez-vous, on a commencé à parler du décodage ou du décryptage du génome dans les fins des années 80, ou début des années 80. Et ça coûtait très 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 cher. Et maintenant, ça coûte quasiment plus rien. Ce qui veut dire que les laboratoires qui s'intéressent à la préhistoire ont aussi les moyens de faire cela. Ce qui n'était pas le cas il y a 20, 30 ou 40 ans. Ça fait tout changer, même dans la mentalité, pour la recherche. Il faut le faire.
Et on continue de découvrir l'histoire de nos ancêtres sur RTL avec quelques surprises, des dinosaures à plumes et un cadavre très bavard.
On est bien entre curieux.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il y a 10 millions d'années, quelques créatures se mettent debout. Ces étranges mammifères sont en danger. Ils ont peu de chances de survivre.
L'homme de Cro-de-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon.
Je suis scientifique, je suis archéologue, je suis paléontologue, je suis préhistorien, je suis paléoanthropologue, mais tout ça, ça veut dire la même chose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un numéro exceptionnel de Science et Avenir de RTL et partenaires. 70 ans de découvertes et des rédacteurs en chef nommés Hubert Rive, Cynthia Fleury ou Yves Coppens, entre autres, il y en a d'autres, qui est notre invité avec la directrice de la rédaction du magazine, Dominique Leglu. Pendant qu'on écoutait, qu'on était en pause, Yves Coppens, vous nous racontiez une anecdote, il faut la partager avec les auditeurs d'RTL, sur cette idée d'apport de la science et notamment de la génétique pour remonter vers nos ancêtres. Vous avez vous-même testé le système, en quelque sorte, grâce à Science et Avenir, racontez-nous.
Grâce à Science et Avenir, oui. Ben, j'ai reçu un jour un Anglais d'Oxford. Cet Anglais était universitaire, mais il était sorti de l'université. Il avait monté sa petite maison privée à lui pour faire des mesures de l'ADN mitochondrial. Il y a deux ADN dans chaque cellule, et celui-là, l'ADN mitochondrial, indique l'origine maternelle de chaque personne.
Donc, il pouvait vous dire potentiellement d'où venait ma maman. Votre maman et toute la branche familiale.
Oui, c'est ça, toute la branche maternelle. Et donc, il m'a pris des petites cellules au fond de la gorge, enfin, je ne vous dis pas le détail, il a fallu que je me rase la bouche, etc. Et il a, au bout d'un certain nombre de jours après analyse, il m'a fait savoir que ma maman ne venait pas d'Europe, mais sans doute un peu au-delà de l'Europe. Et je n'en sais toujours pas plus, quoi. Ça sera vérifié un jour.
Mais l'idée qui ressort de tout ça, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Dominique Leglu, c'est que finalement, on est tous métis, on est tous le fruit d'un métissage.
Bah, d'une certaine façon, oui, bien sûr. Vous vous rendez compte, depuis le temps qu'on est né quelque part en Afrique, il y a 3 millions d'années, et qu'on a bougé, l'homme a la bougeotte, hein, il se remue tout le temps. Donc il est sorti d'Afrique une première fois vers 2 500 000 ans, puis une deuxième fois vers 100 000 ans, et il s'est répandu à travers toute l'Eurasie, et puis après l'Amérique, alors je ne vous dis pas le mélange.
Mais on va parler d'une autre découverte majeure ou avancée majeure. Là, c'est une découverte, Yves Coppens. On est en 1991 et le certain Ötzi sort de terre. Vous nous rappelez qui il est?
Ötzi.
Ötzi. Faire attention aux prononciations. Il y a un tréma sur le haut, c'est ça?
Un umlaut.
Ah oui, Ötzi.
Alors, c'est qui Ötzi?
C'est un personnage d'un peu plus de 5000 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas très ancien, mais c'est extrêmement intéressant. Et qui s'est trouvé dans la glace. Mais en général, les glaciers crachent les cadavres qu'ils ont en eux assez rapidement, mais là il a été coincé par un caillou et du coup ça lui a permis de s'en sortir, non pas quelques centaines d'années après, mais quelques milliers d'années plus tard. Et ce qui était formidable, c'est qu'il avait tout sur lui. Donc on a une information sur comment s'habillaient ces gens il y a 5000 ans, ce qu'ils portaient sur eux, et leur alimentation, leur équipement, etc.
Et on sait même comment il est mort, Eudy.
Oui, ça c'est épouvantable, oui. Il est mort, enfin c'est affreux, il a été assassiné, on a dû le suivre, on ne sait pas pourquoi, alors il y a plein de romans là-dessus. Mais il avait encore une flèche dans l'épaule, c'est-à-dire qu'il a été attaqué. Et sur lui, l'ADN, on revient à l'ADN, il y avait de l'ADN de 4 personnes, donc il était agressé par un petit groupe.
C'est le premier cold case, c'est ça?
C'est pour ça qu'on a dit que c'était le premier fait divers de l'histoire. Dominique Le Glu...
Il y en a d'autres.
Hein. Oh bah, oui,
bien
plus
avant,
ancien, ouais. Vous voulez dire?
Oui, bien sûr. Oui.
Alors bah, allez-y, hein, parce que là, faut pas nous donner envie. Comme
Il y a une Néandertal, c'est quand même beaucoup plus ancien, hein, en Charente-Maritime, qui aussi a pris des coups sur la tête, elle. C'est par derrière qu'on l'a attaqué, la pauvre. Et donc, on peut là imaginer aussi des scènes de ménage, des choses épouvantables, dans le derrière, moi.
Alors, il nous reste une petite minute, Dominique Le Glu, pour parler de ces dinosaures à plumes. C'est quoi cette histoire qu'on a aussi dans Science et Avenir?
Les dinosaures, c'est pas si étonnant que ça qu'ils aient des plumes, non?
Sauf qu'ils volaient pas avec, c'est ça?
Voilà, on pense que non, alors que leurs descendants, eux, ont mis des plumes pour voler. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on a pu trouver ces traces et qu'on se dit qu'ils devaient avoir des couleurs absolument magnifique, alors que traditionnellement on les a toujours vus verdâtres ou marronâtres. Ben non, ils sont très beaux. Voilà, non, pas du tout.
Et ben voilà, c'est à dire aussi dans Science et Avenir un dernier mot, Yves Coppens.
Oui, ça s'appelle une exaptation. L'adaptation, c'est l'adaptation normale à un environnement nouveau, et l'exaptation, c'est l'usage pirate de quelque chose qui n'est pas fait pour ça. Autrement dit, les plumes, c'est pour garder la chaleur sur le corps d'un reptile. Et puis, ma foi, les plumes ont servi à voler et c'est devenu un usage tout à fait pirate, comme notre cerveau aujourd'hui. Et si on est à RTL et qu'on parle de tout ça, c'est parce qu'on a fait un usage pirate de notre cerveau qui était fait simplement pour trouver des stratégies pour éviter de se faire croquer par les carnivores.
Eh ben voilà, merci beaucoup. Joli dernier mot, Yves Coppens. Merci Dominique Le Glu. Ce magazine Science et Avenir spécial 70 ans, 70 découvertes qui ont changé la vie, est en kiosque et c'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.